Donc bonjour à nouveau à tous et merci pour l'accueil qui m'est à nouveau fait dans votre église et également chez Abdel hier où voilà, je la vois un peu fatiguée parce qu'hier on a voilà, beaucoup échangé avec également Jean-Louis et Raymond. Ça a été une après-midi bien occupée, mais c'était vraiment réjouissant. Quand on parle du Seigneur, on a beau avoir la voix fatiguée, on a le cœur qui est content. J'ai réalisé également hier que nous en étions déjà à la quatrième église. Donc on arrive à la moitié du chemin, puisqu'il avait été proposé donc les sept églises et ensuite une prédication qui ferait un peu la synthèse de tout ça. Et ça m'a fait drôle de réaliser qu'on était déjà à la quatrième. Donc pourquoi ? Donc sans plus tarder, je vais vous lire le texte, qui est donc le texte d'aujourd'hui, qui est la quatrième église de l'Apocalypse. C'est la dernière partie du chapitre 2 de l'Apocalypse. Le message de Jésus à l'église de Thyatire. C'est bon, tout le monde y est ? Écrit au messager de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes œuvres dernières plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la prostitution et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de sa prostitution. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Jézabel, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Citation du psaume 2. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors ne soyez pas gênés si de temps en temps je dois réajuster le masque. Je vois que le masque et la buée, ça complexifie un petit peu les choses. Ce message de Jésus à l'église de Thyatire, et plus particulièrement au messager de Thyatire, est le plus long des sept messages rapportés dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Donc il y a beaucoup de matière et il a fallu prendre un peu de temps pour le lire. Donc d'emblée, pour simplifier ce que je vais dire par la suite, on va regarder deux fils conducteurs qui nous donnent une idée en fait de ce qu'est le cœur du message de Jésus au messager de Thyatire. Et donc comme on l'a dit les trois autres fois, en parlant au messager, il s'adresse à l'ensemble de l'Église. Le messager n'est que celui qui va lire la parole de Jésus et la transmettre. Vous rappelez, je vous rappelle à chaque fois, Apocalypse 1, verset 3, à celui qui lit et à ceux qui écoutent. Donc là, la parole est adressée à celui qui lit, mais pour l'ensemble de ceux qui écoutent. Et il y a deux thèmes parallèles qui courent dans cette lettre. Et en fait, évidemment, les deux thèmes sont complètement imbriqués l'un avec l'autre. Le premier, je vais essayer sans lunettes. Le premier, c'est que Jésus se présente avec des yeux comme une flamme de feu, verset 18, et comme celui qui sonde les cœurs et les reins, verset 23. Ça fait penser à quoi Jésus avec un regard de flamme? Alors la réponse en fait est dans le cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Ça évoque quoi le regard de flamme de Jésus? Comment?
Le feu.
Le feu. Quel est le rôle du feu? Ah, c'est difficile à voir, Valérie. Le feu, il fait quoi? C'est quoi le rôle du feu?
La purification.
La purification. Un regard qui pénètre en nous et qui va purifier. Et ça va bien avec l'idée, donc effectivement, de ce que l'on trouve au verset 23. Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. La même idée. Quelque chose qui rentre en nous, qui regarde et qui purifie. D'accord? Ça doit nous rappeler un verset que je vous cite souvent, en particulier les trois autres fois. Dans Hébreux 4 au verset 12, « Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et il ne faut pas avoir peur de ce regard qui nous pénètre, de ce regard qui regarde en nous, parce que c'est pour enlever le levain, c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous purifier, nous sanctifier. Donc Jésus se présente à nous comme le souverain sacrificateur compatissant et il nous dit, comme un médecin demande à son patient, déshabille-toi, ouvre-toi, ouvre ton cœur, mets-le à nu devant moi. Voyez ? Donc là, c'est le côté positif du rôle de Jésus dans la manière dont il se présente à Thyatire, mais ça veut dire qu'il y a une contrepartie qui, elle, est ténébreuse, qui est sombre, qui est occulte. Et c'est tout le problème de l'église de Thyatire. Et le pendant négatif, on le trouve au verset 24. La doctrine de Jézabel consiste à sonder les profondeurs, non pas de Dieu, mais les profondeurs de Satan. Et donc, il va falloir comprendre, dans le temps que j'ai, qu'est-ce que ça veut dire que sonder les profondeurs de Satan. Alors évidemment, quand je dis c'est de l'occultisme, c'est noir et ténébreux, on peut d'emblée se dire, ah ben, bon, ça va, ça ne me concerne pas. Vous allez voir que très subtilement, ça peut nous concerner, et ça concerne un certain nombre de branches et de manières de faire dans les églises. Vous allez comprendre à quoi je fais allusion. Sonder les profondeurs de Satan. Deux axes pour sonder les profondeurs de Satan. On peut passer beaucoup de temps dans l'introspection à sonder les profondeurs de notre chair, à essayer de comprendre la chair et les souffrances passées et la vie passée, sans réaliser que le Seigneur ne vient pas pour guérir notre chair, il vient pour la crucifier. Mais pour cela, il faut qu'on voie notre chair à sa lumière à lui, et non pas à la lumière de la raison, de l'introspection, de l'auto-analyse. Vous voyez ? On peut vite avoir un regard qui est constamment centré sur nous-mêmes à essayer de bricoler quelque chose en nous, là où il nous est demandé de regarder à Jésus. Cette chair est irréformable. Donc sonder les profondeurs de Satan, ça peut déjà être ça, sonder la chair. Et je le dis d'expérience, parce que c'est ma tendance naturelle, plus on sonde la chair, plus on la vivifie. C'est comme la loi, le principe du péché est dans la loi. La vie de la chair est dans la loi. C'est parce qu'il y a la loi, voilà. Mais la loi, l'auto-analyse à laquelle on peut parfois se livrer, l'introspection maladive, mène à la même chose. On sonde quelque chose que Dieu veut crucifier. Et l'autre manière de sonder les profondeurs de Satan, c'est de vouloir confronter de manière directe le monde spirituel. En pensant, ah! Si j'ai tel ou tel problème, sans doute il y a un démon dans l'histoire. Alors on va chercher le démon, on va chercher son nom, et on va tâcher de le chasser au nom de Jésus. Et on commence à partir dans un combat directement contre le monde des ténèbres. Mais on voit bien que Jésus a fait quelque chose comme ça, il a délivré des possédés. Mais regardez, à partir de la Pentecôte, cette manière-là d'aborder le péché ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Je vais développer ça après. Hein. Voilà les deux manières que l'on peut avoir de sonder les profondeurs de Satan, les profondeurs de la chair, les profondeurs du monde des ténèbres. Là où la parole nous demande la crucifixion de la chair. Donc, vous voyez, c'est très très différent. Jésus sonde et purifie. Jézabel sonde et elle s'enfonce dans les profondeurs ténébreuses. L'église de Thyatire, quand on lit ce texte, c'est une église ténébreuse. Elle se présente comme la prophétesse, c'est-à-dire qu'elle a écarté les prophètes de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vont exposer la parole de Dieu. On oublie la parole comme source de vérité et on va chercher l'information ailleurs, dans l'analyse de soi ou dans le monde ténébreux. Voilà un peu le premier thème, la lumière versus les ténèbres. Le deuxième fil conducteur dans cette lettre, que je vais développer plutôt à la fin, c'est la question de l'autorité. Jézabel se présente comme celle qui enseigne les serviteurs de Dieu au travers de sa prophétie. Elle prend autorité sur les serviteurs de Dieu au nom de son rôle de prophétesse. Donc on va voir également à quoi ça correspond ça. Et à contrario, Jésus promet à celui qui vaincra autorité sur les nations. Mais de quelle autorité parle-t-on ? Est-ce qu'il s'agit de faire devenir le roi d'un pays, le roi d'un... Voilà. Est-ce que c'est de cette autorité dont on parle ? Ou s'agit-il plutôt d'une autorité spirituelle ? Mais laquelle ? De qui ? Quelle source ? Comment ? C'est ce que l'on va voir aussi. Donc d'un côté, la lumière versus les ténèbres, et de l'autre, la question de l'autorité. Et on va voir en fait que les deux s'articulent complètement l'un avec l'autre. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Ténèbres, lumière, autorité d'en bas, autorité d'en haut. Alors, le premier thème que je développe un petit peu, c'est celui de Jézabel. Vous rappelez-vous qui est Jézabel ? Ce nom.
La femme de
Achab. Achab. Le roi Achab, roi d'Israël, donc royaume du Nord. Voilà. Donc de Tyr et Sidon, c'est un mariage avec une femme étrangère, et qui va introduire en Israël le culte d'Astarté, le culte de Baal, ses idoles, et également ses prostitutions. Tu laisses Jézabel, n'oublions pas que Jésus parle au messager de l'Église. Tu, toi, messager de l'Église, tu laisses Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner mes serviteurs. Alors, je ne pense pas, évidemment, qu'il y avait dans Thyatire une femme qui s'appelait Jézabel. Je pense que pour un chrétien, ou une chrétienne plutôt, porter le nom de Jézabel, c'est tellement symbolique dans la Bible. Donc là, il est question de l'esprit de Jézabel. Il y avait littéralement, dans l'église de Thyatire, au 1er siècle en Asie mineure, une femme qui avait pris autorité sur l'église au nom d'un ministère de prophétie. Et Jésus dit, mais c'est l'esprit de Jézabel qui est en elle. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est intéressant que dans la version araméenne de l'Apocalypse, il est dit « Tu laisses ta femme, Jézabel. » Il est en train de parler au messager. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans mon propre vécu d'église, j'ai déjà vu cette combinaison-là d'un pasteur et la femme qui, sous couvert de ministère de prophétie, prend une place qui est bien trop grande dans l'église. Je l'ai vu de mes yeux, ça. Hein? Avec la femme qui se met à prophétiser, annoncer des tas de choses, il va y avoir un réveil, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Et le pasteur, là, il est complètement affaibli. Quand Jésus dit, tu laisses ta femme, il est en train de dire au messager, mais tu te comportes comme Achab. Tu es un homme faible, tu laisses faire, tu laisses l'esprit de Jézabel entrer dans l'église. Et là, on a tout le rôle du messager, du pasteur, de l'ancien, qui doit veiller et discerner pour empêcher l'avènement, par exemple, de l'esprit de Jézabel dans l'Église. Et donc, au lieu d'être Akab, quel est le vrai prophète de l'Éternel qui s'est opposé à Jézabel?
Élie,
merci. Et donc le messager de l'Église aurait dû être comme Élie, capable de faire face à l'esprit de Jézabel. Mais là, il est comme Akab. Vous voyez le contraste entre le prophète de l'Éternel et le roi telé, mais qui en fait est faible, parce qu'il est dominé par l'esprit de Jézabel. Alors, je ne vais pas développer ce matin la question du ministère féminin, parce que c'est un chapitre en soi. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai juste développé un point en relation avec ce que Jésus dit de Jézabel. Et je pense que c'est un passage que vous connaissez bien. Et je vais accentuer juste un point. Et on va comprendre où est le problème de Jézabel, ou en tout cas de cette femme. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, versets 11 à 15. Vous connaissez certainement ce passage. « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas, et voilà, c'est ça le point critique, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » C'est exactement ce que faisait cette femme à Thyatire. D'accord ? Mais elle doit demeurer dans le silence pour ce qui est de l'enseignement. Mais plus précisément, car, nous dit Paul, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Quand on prend ce passage et qu'on le mêle avec des autres passages de l'Écriture, ça ne veut pas dire que la femme, elle est assise et elle dit rien du début à la fin. Ce n'est pas ça dont il est question. Ici, le contexte, c'est un contexte extrêmement particulier où Adam, il n'est pas dit pourquoi vraiment dans la Genèse, a laissé Ève seule face au serpent. Quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, il est dit, il l'a créé pour cultiver le jardin et... Pourquoi d'autre ?
Dominer.
Non, c'est très intéressant. Il l'a placé dans le jardin pour cultiver le jardin et pour...
Louer Dieu.
Non.
Manger ses fruits.
Non. C'est très intéressant. C'est un petit détail bien avant la chute. Donc je vous le dis, pour le garder. Le serpent existait déjà. Dieu a placé Adam dans le jardin pour le cultiver, manger des fruits, jouir de bons fruits des différents arbres, mais également pour le garder. Et le garder de quoi ? Ben le garder du serpent. La preuve, c'est qu'on voit en Genèse 3 le serpent qui, nous l'a dit hier Jean-Louis, il va venir, et il n'est pas fou le serpent, il ne va pas aller chercher Adam, qui avait reçu la parole de Dieu. Il va chercher Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Et il commence, et là l'erreur d'Ève a été de commencer à discuter avec le serpent. Mais c'est également, c'est exactement ce que fait Jézabel. Elle discute avec Satan. Elle sonde les profondeurs de Satan. Elle entre dans une relation avec le monde des ténèbres en pensant gagner de l'information ou en pensant pouvoir dominer. Mais en fait, elle introduit les ténèbres dans l'Église. Donc, mais attention, l'homme est le chef de la femme. Chef, ça ne veut pas dire qu'il domine, il est le boss. Ça veut dire que c'est celui qui prend la foudre quand il y a un problème. C'est ça le chef. Hein? C'est celui qui est responsable devant Dieu. La meilleure preuve, certes, il est dit dans 1 Timothée 2 que c'est la femme qui a été séduite. Mais il est dit dans Romains 5, c'est à cause de l'homme que le péché est entré dans le monde. Aux yeux de Dieu, le responsable, c'est l'homme. C'est Adam qui n'a pas gardé le jardin d'Éden. Comme le responsable, le messager, le surveillant, l'ancien, on l'appelle comme on veut, de l'église de Thyatire, n'a pas gardé le serpent dehors. Il a laissé entrer l'esprit de Jézabel. D'accord ? Comme je l'ai dit, il y a deux manières de laisser entrer cet esprit-là. c'est soit par le biais d'un mélange entre la parole de Dieu et une approche, on va dire, psychanalytique, on essaie de sonder les mécanismes de la chair et regarder combien de ministères de relations d'aide aujourd'hui essayent d'intégrer une vue humaniste avec une vue biblique. Mais le problème, très simple, sans aller trop loin, quand un praticien de, par exemple, la psychanalyse, je prends cet exemple-là parce que psyché, âme, analyse, qui renvoie à l'analyse, l'introspection, le rationnel, essaye de sonder la nature humaine. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de sonder? Est-ce que c'est vraiment l'âme qu'il est en train de regarder? Bibliquement, qui nous est dit, non, ce qu'il est en train de regarder, en fait, c'est ce que la Bible appelle la chair. C'est la chair dont on essaye de comprendre les mécanismes. Vous voyez? Donc, d'un côté, dans le monde, on essaye de comprendre la chair pour la guérir, alors que tout le but de la parole de Dieu est de nous montrer la laideur de notre chair pour la mettre de côté. Mais évidemment, on ne peut la mettre de côté que s'il y a une nouvelle création en nous. Dieu crée en nous un cœur nouveau. Il met en nous un esprit qui est uni à Jésus. Donc le chrétien peut laisser la chair s'il connaît cette dynamique de l'esprit qui l'attache à Jésus pour devenir avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, qui est pour moi un verset fondamental. La vie chrétienne, c'est une vie d'attachement à Jésus, non par la guérison de la chair, mais par l'union à Jésus, par l'esprit. Ce qui nous permet de laisser la chair de côté, ce qui s'appelle du coup la circoncision du cœur. Il y a un bout qui doit être coupé. Mais, alors ça c'est ma tendance naturelle, si je puis dire. Donc je sais ce que c'est, j'ai passé des années à essayer d'intégrer les deux, jusqu'à ce que Dieu me stoppe. Donc là, voilà, je pourrais vraiment développer comment ça marche, ça. Mais je ne vais pas le faire, bien sûr. Mais voilà, là, je parle d'expérience. Je ne fais pas de la théorie. Et la deuxième manière, comme je l'ai dit, de sonder les profondeurs de Satan, là aussi, je parle d'expérience, puisqu'il y a plusieurs années, j'ai été confronté à un ministère d'une personne qui sondait les esprits, qui discernait les esprits. C'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre quand on ne l'a pas vécu, mais il y a des personnes qui discernent les esprits et qui veulent ensuite, qui s'évertuent, et je l'ai vécu, qui pressurisent de plus en plus à vouloir vous chasser les esprits. Et en présentant en fait le remède et la guérison à tel ou tel problème ou tel péché, eh bien on va discerner et on va chasser le démon. D'accord ? Je l'ai vécu, ça. Ça a duré 1 an et demi, et là encore le Seigneur est intervenu et m'a stoppé dans cette manière de faire. Mais je peux vous dire que le monde spirituel existe. Quand on l'interroge, il répond. J'entends bien de manière surnaturelle. Il est capable de donner de l'information. On se dit, ah, mais ça va m'aider de comprendre ceci ou cela. Mais à nouveau, on est en train de sonder la chair. Vous voyez ? Là où le Seigneur nous demande de crucifier la chair. Donc ça aussi, ça je l'ai vécu. Et il a fallu un retournement complet pour que le Seigneur me sorte de ça. Et heureusement, il m'a fait grâce. Puisque au lieu de céder à la pression de vouloir constamment chasser des démons, le Seigneur m'a donné, et heureusement que là, la vie de prière est importante, de toujours, ok, tu m'as dit ceci, maintenant on va prendre un temps de la prière, et j'ai pris là chaque fois le temps qu'il fallait pour sonder et tester et éprouver ce qui était dit. Mais je peux vous dire qu'en 1 an et demi, tout ce qu'il a dit était vrai. Et c'est ça le pire. Et pour comprendre ça, j'aimerais que quelqu'un lise à haute voix juste le passage de Deutéronome 13, versets 1 à 5. Parce qu'on a souvent l'impression qu'un faux prophète est quelque chose qui nie une chose et la chose ne s'accomplit pas. Oh ben, c'est un faux prophète. Écoutez bien ce qui est dit dans Deutéronome 13, 1 à 5.
S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
Voilà, merci bien. Je le résume. S'il se lève parmi vous un prophète ou, comme dans d'autres traductions, il est dit un songeur de songe, qu'il vous dise un signe et que le signe s'accomplit. Rappelez-vous ce qui est dit dans l'Apocalypse. La bête de la terre va faire des signes aux yeux des hommes. Les signes vont s'accomplir et la terre entière va suivre la bête. Donc la marque du faux prophète, ce n'est pas que le signe s'accomplisse. C'est le message qui vient juste derrière. Allons vers d'autres dieux. Détournons-nous de ce message de l'Évangile qui est dur, le renoncement à soi, la crucifixion de la chair. Allons vers un autre Évangile qui est plus simple. Tu verras, mais non, ça c'est vieux ça, on est moderne maintenant. Ce n'est pas le fait que la parole que cet homme-là m'avait dite, ou il en a dit plusieurs, ce n'est pas le fait qu'elles étaient justes qui était le problème. C'est quel était l'Évangile qui était sous-entendu. Quand on pense que je termine avec ça, quand on pense que la réponse à tel ou tel problème, c'est de chasser tel ou tel esprit, on oublie que si l'esprit est là, c'est d'abord parce qu'on est en train de lui donner à manger. L'esprit se nourrit de notre chair. Regardez toutes les épîtres de Paul. Jamais l'apôtre Paul ne parle de victoire sur le péché, de victoire en chassant des esprits. Le seul message qu'a l'apôtre Paul, je n'ai voulu savoir parmi vous qu'une seule chose, Christ et Christ crucifié. Regardez toutes les épîtres aux Romains, chapitre 1 à 8 en particulier. Il n'est question que comment arriver à l'union à Jésus en sa mort et en sa vie pour la crucifixion de la chair et la résurrection de l'esprit. À aucun moment il est dit chasser des esprits. Vous voyez ? Donc, on peut interroger, on peut sonder les profondeurs de Satan. Ça répond. Mais quel est l'Évangile que ça sous-tend ? Vous voyez ? J'aurais tellement de choses à dire, mais je vois que le temps passe. Donc faisons attention. Ce n'est pas la véracité des paroles qui compte, ce n'est pas l'accomplissement des signes qui compte, c'est quel est l'Évangile qu'on veut nous vendre au travers de ça. C'est ça la marque du faux prophète, qui vient de manière extérieure comme une brebis, mais à l'intérieur c'est un loup. Donc extérieurement ça ne se voit pas a priori, hein. Mais c'est quand ça commence à parler que là on se rend compte que l'Évangile qui est annoncé n'est pas l'Évangile de la parole. Il n'est pas centré sur Jésus, il n'est pas centré sur l'œuvre de la croix. Le point suivant, qui va être plus... est-ce que ce que j'ai dit jusque-là est assez clair ? Vous me le dites, hein, n'hésitez pas. Il ne faut pas perdre l'auditoire. Hein. Je sais que ce n'est pas facile. Parmi les sept églises, c'est vraiment la prédication qui m'a demandé le plus de mal. Parce que je touche à des choses... Si on n'en a pas l'expérience, ça peut être un peu compliqué de comprendre qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a un combat à mener. Le point suivant, On a vu la thèse sonder la chair, l'antithèse sonder le monde démoniaque comme étant deux formes de sonder les profondeurs de Satan. Évidemment, la troisième voie, celle qui nous permet d'échapper à ça, c'est de nous tenir devant Jésus, celui qui sonde les cœurs et les reins. Et là, ça n'a rien à voir. Ça ne résulte pas d'un effort d'analyse, un effort intellectuel. Il ne faut pas être particulièrement intelligent pour se tenir devant Dieu. C'est lui qui, par son esprit, fait la lumière en nous en utilisant sa parole. On n'est pas dépendant d'un savoir secret dont serait détenteur un tel ou une telle. Vous savez que là où il y a le savoir que l'on détient, il y a le pouvoir sur celui qui ne sait pas. Savoir, c'est pouvoir. D'accord ? C'est pour ça que annoncer la parole de Dieu, c'est l'annoncer dans toute sa richesse et ne rien retenir. Un savoir secret dont je serai le seul détenteur, et si tu m'écoutes, je vais te le livrer petit à petit, on est en train de prendre l'ascendant. C'est comme ça que Jézabel a pris autorité sur l'Église. En délivrant un savoir que les chrétiens de l'Église n'avaient pas. C'est comme ça qu'elle a pris l'ascendant. C'est intéressant de voir que dans 1 Corinthiens 2, alors c'est un long passage, versets 6 à 16, et vu le temps qui passe, je vais le raccourcir à l'essentiel. L'Esprit de Dieu, donc c'est 1 Corinthiens 2, et là je lis le verset 11. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Là où Jézabel essayait de sonder les profondeurs de Satan. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous connaissons les choses du Père, que nous connaissons les choses du Fils, et comme il est dit juste avant, elles nous sont révélées par l'Esprit de Dieu. Et inversement, la révélation du Fils, comme on l'a dit hier, d'ailleurs après-midi, c'est également la révélation de nous-mêmes. Le Fils, quand il se montre à nous, quand la bonté de Jésus se montre à nous, ça nous pousse à la repentance, Romains 2, parce que du coup, c'est également notre chair qui est mise dans la même lumière. Alors, je dis souvent que de la même lumière, nous voyons la gloire de Jésus, sa compassion, mais on voit également notre misère. On ne peut pas voir Jésus grand si on ne se voit pas soi-même misérable. Les deux vont ensemble. Vous voyez ? Donc, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Ça, Jézabel ne peut pas le faire. L'occultisme ne peut pas le faire. La psychanalyse ne peut pas le faire. C'est une révélation, puisqu'il est dit, l'Esprit de Dieu va nous donner des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme naturel. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus se présente à Thyatire, comme remède du problème de Thyatire. Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Je suis celui dont le regard de flamme va pouvoir vous purifier. Au contraire de tous les dires de l'esprit de Jézabel qui règne parmi vous. C'est là qu'il y aurait un point intéressant à développer, mais vu le temps, donc il est prévu que je vous le fasse le mois prochain, dans le contexte de l'église de Sardes, la cinquième église. C'est le point suivant qui est fondamental, et je pense que c'est là le vrai problème de beaucoup. Que signifie garder la parole. Jésus dit, toujours dans le message à Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit problème ?
Je suis là.
Ah, d'accord. Merci. On retrouve là le verbe « garder » dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un écho là, c'est pas grave. À celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. On a parlé tout à l'heure de garder la parole, ma parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. L'amour à l'égard de Jésus n'est pas d'abord une question de sentiment, c'est une question de garder les commandements. Celui qui m'aime, Jean 14, c'est celui qui garde ma parole. Donc, que veut dire garder la parole ? Donc, je n'ai pas développé la question aujourd'hui. Je vais juste nommer 2-3 versets avec un petit commentaire. Et à l'occasion de l'église de Sardes, on va développer ce que ça veut dire. Regardez d'abord le ministère de Jésus. Comment a-t-il commencé ? Matthieu 4 et Luc 4. Quelle est l'épreuve par laquelle Jésus a dû passer ? avant de commencer à prêcher.
Le désert.
Oui, et voilà, les trois tentations. Et qui a-t-il rencontré dans le désert ? Le diable, Satan. Et comment a fait Satan pour essayer de le tenter ?
Il lui a dit, il est écrit, il a cité en fait la parole.
Et voilà, c'est le point exactement que je voulais souligner. Satan est capable d'utiliser l'écriture. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi du haut du temple, car il est écrit, il enverra ses anges de peur que tes pieds ne heurtent et ne se blessent. Et Jésus a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Non, on parlait hier du fait que ça, parfois dans nos prières, on passait notre temps à dire à Dieu ce qu'il avait à faire. Là, il est dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Le serpent est capable de venir avec, devant nous avec la parole. Une lettre morte, évidemment, la lettre sans l'esprit. Mais il est capable de citer la lettre. Donc, faisons attention. Mais, et ça, c'est ma conviction, c'est un point de passage obligé. C'est par là que le Seigneur va savoir si nous gardons la parole ou si nous la remplaçons par quelque chose d'autre. Et en particulier, on peut remplacer la parole par nos confessions de foi, nos credos, nos théologies, nos propres formulations que l'on apprend dans une fac de théologie et qu'on retransmet sans avoir l'expérience de la parole. Voyez ? On peut remplacer la parole par notre compréhension de la parole, que l'on a appris d'un autre et que l'on restitue sans en avoir soi-même l'expérience. Pour bien comprendre ça, je vous donne un autre passage. 1 Jean, 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 14. Là, Jean va dire deux fois à peu près la même chose. Donc, je les synthétise en une seule fois. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés en son nom. Ça, c'est la joie de la conversion. Waouh ! C'est tout le début de la première épître de Jean, d'ailleurs. Si nous marchons dans la lumière, comme vous êtes, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et il continue, Jean, en disant, mes petits enfants, j'écris ceci pour que vous ne péchiez point. Je vous donne la clé. Ça commence par la repentance, la marche de la lumière, la purification par le sang de l'agneau. C'est le début de la vie chrétienne. Mais il va dire ensuite, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Vaincre le malin, c'est quand la parole de Dieu demeure en nous et qu'on ne la remplace pas par des paroles humaines, des raisonnements, des traditions, des confessions de foi, etc., etc. C'est ce point-là dont je parlerai la prochaine fois. Juste pour vous montrer quel est le problème avec garder la parole. C'est que la parole de Dieu, quand on considère les promesses de la Nouvelle Alliance, qui ne sont expérimentables que par la vie de l'Esprit, puisque la promesse de la Nouvelle Alliance, c'est la venue de l'Esprit à la Pentecôte, eh bien Dieu nous met face dans nos vies à des impossibilités, à des murs. Et là, il va nous forcer à faire un pas de foi, à lui faire confiance face à un mur, et on constate l'impossibilité de vivre telle promesse, telle promesse, telle promesse, et on essaye, et on n'y arrive pas. Dieu nous met face à des murs. Et la parole de Dieu, en fait, lorsqu'elle est éclairée par l'Esprit de Dieu, nous met face à des murs. Et notre premier réflexe, c'est d'essayer de nous sauver nous-mêmes. Et on va faire des efforts, et on va faire mieux, on va se discipliner, on va lire plus de bouquins, on va plus prier, plus. On essaie de nous sauver d'abord nous-mêmes. Et il faut arriver à abdiquer. Mais si on ne veut pas abdiquer, face aux impossibilités de la parole, la seule alternative, c'est de commencer à la transformer. Et la remplacer par quelque chose qui est beaucoup plus facile à vivre. Ça, donc, j'en parlerai dans un mois, parce que c'est un sujet en soi. Mais c'est le sujet fondamental, et je pense que c'est sur cette question-là, la transition entre le petit enfant, et j'ai oublié la troisième catégorie, Je vous écris Père, car vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc là, on est vraiment dans la souveraineté du Père. L'âge, le chrétien adulte, mûr, c'est celui qui se confie dans la souveraineté du Père, qui sait que tout est entre ses mains et qui entre dans le repos du Père. Mais entre le repos du Père, du chrétien mûr, et le petit enfant qui découvre la joie du pardon de ses péchés, il y a le combat intermédiaire des jeunes gens qui doivent devenir forts parce que la parole de Dieu demeure et c'est comme ça qu'ils ont la victoire sur le malin. Jésus lui-même a dû passer par ça. Je vois le temps qui passe. Donc ce thème-là, retenez-le, on va le développer la prochaine fois. Je pense que c'est là que le problème. Hein, nous sommes appelés, ça veut dire nous sortons d'Égypte. Mais rappelons-nous ce que dit Paul, beaucoup sortent d'Égypte, mais il y en a peu qui sont entrés en Canaan. Et la majorité s'est perdue dans le désert. Elle s'est perdue dans le désert tout en chantant, dansant, adorant le veau d'or. Hein, c'est lui l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. C'était un veau d'or, c'était plus l'Éternel. Et pourtant tout semblait aller bien. Mais ils sont, comme le dit Paul, morts dans le désert. Ils ont remplacé le rocher d'où découlait l'eau, la manne, qui était leur nourriture spirituelle, ils l'ont remplacé par un veau. Et je pense que le problème de beaucoup, il est là. Certes, on est appelé, certes, on est sorti d'Égypte, mais garde-t-on vraiment la parole? La parole qui devient tranchante, efficace, comme un couteau qui est en train de circoncire le cœur pour nous séparer de notre chair et nous faire vivre par l'esprit. Ça, c'est vraiment contre nature pour nous. Nous luttons pour notre survie. Mais quand on l'accepte, on devient fort. La parole de Dieu demeure en nous. Et on acquiert cette autorité dont il est question ici, l'autorité dont parle Jésus à ceux qui vaincront. C'est-à-dire qui garderont la parole. Ils ne vont pas la remplacer par les oracles de Jézabel. Que ce soit de l'humanisme ou que cela soit du monde occulte. Voyez un peu Alors, j'en arrive maintenant, puisque j'ai 5 minutes, j'en arrive à la promesse au vainqueur. Celui qui gardera, donc, jusqu'à la fin, mes œuvres. De quelle œuvre s'agit-il? Quand Jésus dit, le vainqueur, celui qui gardera mes œuvres. Quelles sont les œuvres dont il est question là?
En nous.
Alors ça, c'est le deuxième volet que j'allais aborder. Mais d'abord, le premier volet de l'œuvre de Jésus, c'est lequel? Soyez très très concret.
Garder sa parole.
La croix.
La croix.
C'est la croix. C'est l'œuvre, le tout accompli de Jésus à la croix. Cette œuvre d'offrande à son Père que lui seul pouvait mener. Et la conséquence de l'œuvre de Jésus à la croix, de cette offrande à lui-même, là c'est le deuxième point, c'est l'œuvre effectivement de Jésus en nous, par l'union à Jésus, Romains 6, union en sa mort et union en sa vie. Mais les deux aspects de l'œuvre sont indissociables. Donc dans la parole, il y a trois types d'œuvres. Il y a les œuvres de la chair, quand on laisse notre chair s'exprimer. Il y a les œuvres de la loi, mais le point commun entre les deux, c'est que nous avons l'initiative. Face à la chair, je cède à la chair, je suis responsable et coupable, mais face à la loi, tel commandement, tel commandement, tel commandement, et on essaye de les accomplir par notre propre énergie, pour acquérir notre propre justice. Le point commun entre les deux, c'est que nous en sommes à l'origine. Les œuvres de Jésus qu'il faut garder, c'est lui et lui seul qui en est à l'origine. Ce qui nous rend complètement dépendants de lui. On ne peut pas faire ce que Jésus a fait à la croix. Il est le seul homme qui, par son obéissance, a pu acquérir la justice devant Dieu. Voyez ? Mais celui qui continue à œuvrer depuis 2000 ans, c'est également Jésus. Les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions, le passage d'Éphésiens 2 a été lu tout à l'heure, ce ne sont pas des œuvres qui résultent de notre initiative. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu pour entrer dans ces œuvres-là. Et du coup, ce ne sont pas nos œuvres, ce sont des œuvres d'obéissance. Celles précisément dont Jacques dit au chapitre 2, que sans ces œuvres d'obéissance qui viennent de lui, notre foi, elle est morte. Vous voyez, c'est lourd de conséquences. Mais ça veut dire quoi, les œuvres préparées d'avance et Jésus œuvre? C'est parce que de toute éternité, il n'y en a qu'un seul qui œuvre. On l'a entendu tout à l'heure avec l'œuvre de la création. Il n'y en a qu'un seul qui œuvre devant son Père. C'est le Fils. Et par l'union à lui, nous dit Paul dans Romains 6, nous devenons un membre de son corps, un instrument de justice. Mais la tête, le boss, le chef, c'est Jésus. Donc les œuvres dont parle Jacques, des œuvres d'obéissance, elles ne viennent pas de nous. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais c'est la tête qui les inspire. Si nous sommes unis à la tête, si nous devenons un avec Jésus. C'est pour ça qu'hier après-midi, on a constamment parlé l'attache à Jésus, l'union à Jésus, devenir un avec lui. C'est le cœur de la vie chrétienne. Si on veut que les promesses de la parole de Dieu, qui se réalisent par l'Esprit, s'accomplissent dans nos propres vies. Sans cette union, ce lien, cet attachement à Jésus, il faut que je conclue, sans ce lien-là, les promesses restent extérieures. C'est ce que dit Calvin lui-même. Regardez le chapitre, le livre 3 de l'institution chrétienne. Calvin dit d'un côté, il y a le tout accompli de la croix, mais s'il n'y a pas d'union à Jésus, ça reste extérieur à nous. Ça n'a aucun impact dans nos vies. Donc il ne s'agit pas simplement de croire de la tête. Il faut nous unir à Jésus. Bien. J'ai assez parlé, je pense, de l'autorité sur les nations. Il y aurait eu un point à développer, mais le temps est passé, donc je n'ai pas le faire. Vous lirez simplement Colossiens 2, 13 à 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et on comprend que c'est par la mort qu'il nous a soustrait à la puissance du péché et à la puissance du diable. Et également, il promet au vainqueur l'étoile du matin. C'est intéressant, parce que l'étoile du matin, c'est ce que tu as dit Jean-Louis hier. Jésus est comme un point lumineux dans la nuit. Mais justement, l'étoile du matin, c'est Vénus. C'est la première étoile que l'on voit le soir et la dernière qui disparaît le matin, mais toujours dans un contexte de pénombre. Donc Jésus est en train de dire, dans la pénombre de l'église de Thyatire, je suis le repère, je suis la lumière, je suis l'étoile. Regardez à cette étoile. Je donnerai l'étoile du matin pour que vous puissiez sortir de ces ténèbres. Et avec ça correspond bien l'autre passage dont il est question dans la parole qui parle de l'étoile du matin. 2 Pierre 1, verset 19. Nous tenons d'autant plus certaine la parole des prophètes à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Contexte de la prophétie, promesse de l'étoile du matin qui se lève dans le cœur. Voilà. Conclusion en un mot. Notre ennemi, c'est notre chair. Bien sûr, notre ennemi, c'est le diable, l'ennemi, c'est le monde. Mais là où le Seigneur nous libère du diable et du monde, c'est par la crucifixion de la chair, l'union avec lui. Sonder la chair par l'introspection ou le monde spirituel en voulant le confronter directement, c'est leur donner en fait puissance sur nous parce que la chair nous ment, le cœur est tortueux, parce que le monde spirituel nous ment, les démons sont des menteurs. Et cela aussi suscite l'orgueil de par le savoir que l'on a et que les autres n'ont pas. Et tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole, vivifiée par l'esprit de celui qui sonde les cœurs et les reins. Et donc, le chemin de sortie des ténèbres de Thyatire, c'est la repentance devant la bonté de Jésus, redécouvrir cette étoile du matin qui se lève dans nos vies et la proclamation de la victoire de Jésus, comme tu en as parlé tout à l'heure. C'est lui qui a vaincu. Ce n'est pas nous qui confrontons directement les puissances du mal pour vaincre. Il a déjà vaincu en se cachant lui. Voilà, j'étais un tout petit peu long. Mais je pense qu'on peut conclure là, et les points que je n'ai pas abordés aujourd'hui, on les abordera donc le mois prochain.